Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria France, bonjour, quelle joie de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons parler de « Est-ce que nous sommes sages ?» Voilà, aujourd'hui, bien sûr, vous savez que nous allons donc entrer dans la fête de la Toussaint et que le 2 novembre, nous allons prier pour nos défunts, etc. Donc c'est l'occasion rêvée de reparler un petit peu de ces choses essentielles, à savoir le ciel, le paradis, l'enfer aussi, et puis le purgatoire, ce qu'on appelle nos fins dernières personnelles. Alors confions cette petite série de catéchèses sur les choses essentielles à la Vierge Marie, la Reine du Ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ben oui, frères et sœurs, nous sommes faits pour la béatitude, nous sommes faits pour le ciel. Alléluia. Je considère, comme dit saint Paul, que la somme des souffrances du temps présent ne sont rien comparée à la gloire qui va se manifester en nous, par nous, pour nous. Ben oui, c'est la gloire, le ciel. Si on faisait un micro-trottoir, bonjour madame, c'est Radio Maria, est-ce que vous pensez que vous êtes faite pour le ciel? Vous aurez peut-être, ça vaudrait le coup, j'espère qu'un jour on pourra faire des micro-trottoirs un peu comme ça. Est-ce que vous croyez que vous êtes faite pour la béatitude, pour le bonheur, pour Dieu? C'est quand même essentiel, c'est quand même la grande question de notre vie. À quoi bon se lever le matin, franchement, si c'est pour que tout se termine entre quatre pièces de bois et puis être mangé par des vers, hein? Franchement, nous sommes faits pour la vie éternelle. La vie éternelle, qu'est-ce que c'est que la vie éternelle? Eh bien sûr, ce n'est pas simplement notre vie naturelle que nous connaissons. Que dois-je faire pour avoir, pour obtenir, pour hériter de la vie éternelle? Posera la question à Jésus ce jeune homme riche, notre cher jeune homme riche. Cette vie éternelle, apparemment, qui est promise à ceux et celles qui quittent tout pour suivre Jésus, quiconque aura laissé maison, frères, sœurs, père, mère, enfant ou champ à cause de mon nom, recevra bien davantage et aura en héritage la vie éternelle. Il y a donc une vie qu'on appelle éternelle, qui est un héritage, donc on hérite, qui est la vie même de Dieu, la vie de Dieu, la vie de la Sainte Trinité, cette vie de communion, d'amour, de lumière qui est en Dieu, qui est Dieu lui-même. Cette vie nous est donnée. C'est pas moi qui le dis. Seigneur le Seigneur lui-même, dans la première épître de saint Jean. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché du Verbe de vie. Car la vie s'est manifestée, nous l'avons vue, nous en rendons témoignage et nous vous annonçons cette vie éternelle qui était tournée vers le Père et qui nous est apparue. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous soyez vous aussi en communion avec nous. Quant à notre communion, elle est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Tout ceci, nous vous l'écrivons pour que notre joie soit complète. En fait, Dieu est vivant. Dieu n'est pas statique, ce n'est pas un écran de télévision. Ce n'est pas un écran plat. Dieu est vie, je suis la vie, Dieu est vivant. Ça bouillonne en Dieu, ça bouillonne. Et cette vie éternelle était tournée vers le Père, prostonteon. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était vers le Père. Il y a donc en Dieu une vie. La vie du Père, la vie du Fils, la vie du Saint-Esprit. On appelle ça la vie éternelle. Et la merveille, frères et sœurs, c'est que c'est la vie de la Sainte Trinité, ce que le Père vit avec son Fils et l'Esprit Saint, ce que le Fils vit avec le Père et l'Esprit Saint, ce que l'Esprit Saint vit avec le Père et le Fils. Eh bien, c'est extraordinaire, mais nous l'avons. Nous pouvons hériter, nous héritons, nous pouvons participer à cette vie. Pas parce que nous sommes des gens extraordinaires, mais parce que Dieu le veut. Cette vie éternelle que nous avions perdue par le fait du péché de nos premiers parents et qui nous est rendue par Jésus. En effet, cette vie éternelle que nous avions perdue nous est communiquée par le Christ. Par tout le mystère du Christ, sa personne, par sa parole. À qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Autrement dit, quand tu parles, ça ne fait pas pareil que quand Gérard et Micheline à côté me parlent. Quand Jésus parle, ça donne, ça spire l'Esprit Saint, comme on dit en théologie. C'est-à-dire que ça communique la vie de Dieu. La parole de Jésus n'est pas simplement une parole d'homme, c'est la parole de Dieu faite chair, qui sort par sa voix, sa bouche, un langage même humain. Je te le dis, tu as été libéré, disait Jésus à cette femme toute courbée pendant depuis 18 ans. Courbée, elle n'arrivait plus à se redresser. Tu as été libéré. Ah ben voilà, si ça, ça ne procure pas la vie, non seulement une vie physique qui se rétablit, mais dans son cœur, cette femme, appelée femme avec un grand F, la voilà, toute revigorée, toute restaurée, toute vivante, vivante de la vie de Dieu, procurée par la puissance de la parole de Dieu qui donne la vie. Mes paroles sont esprit et elles sont vie. Cette vie éternelle, communiquée par la parole de Dieu, par la parole de Jésus, par Jésus lui-même, il nous dit dans Saint Jean chapitre 12, « Ce n'est pas de moi-même que j'ai parlé, mais le Père qui m'a envoyé m'a lui-même commandé de dire et de quoi, que dire, pardon, et de quoi parler. Et je sais que son commandement est vie éternelle. » Ainsi donc, ce dont je parle, tel que le Père me l'a dit, j'en parle. Donc, il y a donc dans la parole de Dieu une puissance de vie éternelle, de vie divine, extraordinaire. Donc, lorsqu'on accueille la parole de Dieu dans la foi, eh bien, ça nous fait vivre de la vie éternelle, pardi. Déjà, et c'est ce que le catéchisme dit, et on aura l'occasion d'y revenir, la foi, c'est le commencement de la vie éternelle, la vie de Dieu en nous. Alors, c'est Jésus qui nous la procure, tel le bon berger à ses brebis. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais, elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais, et nul ne les arrachera de ma main. Cette parole est vérité. Cette parole est vérité. On dit Amen, Amen. On dit Amen. On dit, ben Seigneur, moi je crois, quand tu me dis que je ne périrai pas et que personne ne m'arrachera de ta main, ah ben ça me fait du bien, plus que du bien. Hein. J'y crois et ça me fait vivre parce que j'y crois. Et j'y crois sur l'autorité de ta parole, car ta parole est ta parole de Dieu et ta parole est vérité. Tu ne mens pas, toi. Tu ne manipules pas, tu ne calcules pas, tu ne manigances pas, tu ne fais pas en permanence des compromis, des consensus. Non, ta parole est vérité. Ta parole est lumière. Et quand j'adhère à ta parole, quand j'attrape, quand je reçois, quand je prends ta parole en héritage, quand je m'empare de ta parole, Je me mets à vivre de ta vie dans la vigueur de ta, la force de ta parole qui s'accomplit en moi parce que elle a une puissance d'accomplissement, ta parole. Quand Dieu dit quelque chose, ça est. Ça se produit. Alors il y a la création, parole de Dieu créatrice. Alors là, on n'a rien à faire. Dieu dit et cela est, point. On contemple. Mais dans l'ordre de la vie et non pas de l'être, quand Dieu dit « lève-toi », va, ta foi t'a sauvé, et ben d'un coup je me mets à y aller, et puis ben je repars avec mon brancard, tiens. Mais je ne suis plus sur mon brancard, je le porte mon brancard, jusqu'à ma maison, où je vais l'attacher à mon mur comme un ex-voto. Et pourquoi ? Parce que j'ai cru que quand Jésus me disait « va », et ben qu'il y avait une telle puissance que je me dis ben, « j'y vais ». Voilà. Et du coup, ça marche. Ben oui, ça marche, la parole de Dieu. Ça marche. Et ça fait marcher. Alors voilà, la parole de Dieu est, qui procure la vie éternelle. Jésus qui nous donne la vie éternelle, c'est extraordinaire. Et cette vie éternelle, faisant allusion à l'Esprit Saint, car bien sûr, la parole de Dieu et l'Esprit Saint sont toujours, 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 toujours intrinsèquement liés. Il n'y a pas une parole de Dieu qui ne soit prononcée, qui ne soit dans la vigueur et la puissance du Saint-Esprit. Alors donc, bien sûr, cette vie éternelle est comparée à l'eau jaillissante. Quiconque boit de cette eau aura soif à nouveau, dira Jésus à la Samaritaine. Mais qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Ah bon ? Ben oui. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui source d'eau jaillissant en vie éternelle. Voilà la grande résurrection de l'humanité, c'est que depuis le péché, on ne vivait que pour survivre. Pour essayer de s'en sortir, oui. Alors les plus vertueux, ben, ils ont construit des tours pour essayer de rejoindre une divinité en disant ben, « j'espère qu'à coup de sacrifice, Dieu va pardonner mon péché ». Ben non, ça ne marche pas. D'un coup, le Seigneur arrive et nous dit ben, « tu sais, moi je vais te restaurer, moi. Je vais te faire vivre ». De telle manière que de ton propre cœur humain jaillisse la vie de Dieu. Ça, ça s'appelle vivre. Comme disait déjà Saint-Irénée. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Vivant de la vie de Dieu. Tant qu'on ne vit pas de la vie de Dieu, on est mort. On peut faire beaucoup de choses, mais le cœur est mort. Le Seigneur vient nous donner un cœur nouveau, son cœur nouveau jaillissant en vie éternelle. Extraordinaire. Ne vous inquiétez pas, je ne perds pas le fil, je vais bientôt vous parler du ciel. Mais impossible de parler du ciel si on ne parle pas en amont de la vie éternelle, parce que le ciel, si vous voulez, c'est pas... 1, 2, 3, soleil. Ça marche pas. Ben non. Le ciel, on continue à notre mort, après la mort, on continue à vivre la vie qu'on a ici-bas. Ah bon ? Ben oui. C'est pour ça que le ciel, c'est pas quelque chose de juste après. Non, c'est maintenant, c'est aujourd'hui, c'est la vie éternelle. Vie éternelle qui est le fruit de la croix de Jésus, de son heure bien sûr. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, eh bien, on ne savait plus où c'était cette vie éternelle. On cherchait en nous, mais il n'y avait pas. On était stérile, on était mort, on était voué à la damnation. Et Jésus, levant les yeux au ciel, dit « Père, l'heure est venue ». Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie et que, selon le pouvoir que tu lui as donné sur toute chair, il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu, cette connaissance intime, intérieure. Une connaissance toute pénétrée par l'amour, bien sûr, car on ne connaît bien Dieu que si on l'aime et si on se laisse aimer par lui. Ce n'est pas une connaissance intellectuelle, dans le sens abstrait, purement conceptuel. Non, connaître Dieu, c'est non, c'est connaître la vie, c'est connaître le Père. C'est connaître de l'intérieur l'engendrement du Père, c'est de connaître de l'intérieur le Fils qui se laisse engendrer par le Père. C'est de connaître de l'intérieur, participer intimement à l'aspiration de l'Esprit Saint, à la vie de la Sainte Trinité, participer de l'intérieur. Sur un match de foot, vous pouvez le regarder à la télé, vous pouvez aller au stade, et puis vous pouvez jouer au foot aussi. Différentes manières de participer. Voici venue l'heure où doit être glorifié le Fils de l'homme. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie, la perd. Et qui est sa vie en ce monde, la conservera en vie éternelle. Il y aura donc de notre part, un appel très très fort à accueillir la vie que Dieu veut nous donner en lâchant, en mourant à notre propre vie naturelle, à la vie qui est dominée par notre volonté propre, parce qu'on aime la vie. Et comme dit le psaume, mais ton amour vaut mieux que la vie. Qu'est-ce qui est mieux, la vie ou l'amour? Ton amour, Seigneur, vaut mieux que la vie. C'est-à-dire que si je n'ai pas ton amour en moi, ben je vivote avec mes petites forces. Mais ça va pas bien loin. Ça va même nulle part. Alors, en accueillant cette vie éternelle par la foi, qui est un don de Dieu qui nous permet justement d'accueillir la vie même de Dieu, on entre dans la vie pour laquelle nous sommes faits. Telle est la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Et même, celui qui écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Qui croit au Fils a la vie éternelle. Qui résiste au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. C'est donc la vie éternelle un don de Dieu que Jésus, que Dieu nous donne, mais qui nous est mérité par Jésus. C'est-à-dire que Jésus, dans son humanité sainte, va nous mériter la vie éternelle. C'est-à-dire qu'il y avait, en vivant sa vie de rédempteur, il faudra qu'il nous rachète et nous récompense, c'est-à-dire nous donne à nouveau, nous procure à nouveau ce que nous avions perdu. Il viendra nous chercher dans les caroubes donnés aux cochons. On pensait avoir la vie en se barrant avec l'héritage, oui, mais non, on est tout faux. Puis on a claqué tout avec les filles, puis on s'est retrouvé tout seul, et puis à manger avec les cochons même. Impossible, c'est affreux pour un juif d'en arriver là. Et puis pour nous tous, ça nous montre à quel point, si ce n'est pas le Fils qui vient nous chercher, nous ramener dans la maison du Père, on ne sait pas faire. Alors le bon berger nous prendra sur ses épaules et dans son cœur pour nous ramener là où il demeure toujours, dans le sein du Père. Voilà, alors grâce à Jésus, et il n'y a pas, je vous le précise, il n'y a pas de vie éternelle en dehors de Jésus. Ce n'est que Jésus qui procure la vie éternelle. Parce qu'encore une fois, il aura fallu le mystère de la rédemption pour que nous retrouvions la vie éternelle qui nous est donnée par Dieu. C'est pour ça qu'il y a, lorsque nous parlons de vie éternelle, il y a la dimension du salut, accueillir le salut en Jésus-Christ. On ne va pas au ciel sans accueillir le salut en Jésus-Christ, en Jésus-Christ, sans accueillir le Rédempteur, l'unique Rédempteur. Il n'y a pas d'autre nom au ciel, sur terre et aux enfers par lequel nous sommes sauvés que celui de Jésus, d'accord ? Personne d'autre ne sauve, personne d'autre ne procure la vie éternelle. Donc, si tu veux aller au ciel, il n'y a qu'un seul chemin. C'est celui qui a dit de lui-même, « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Donc, si tu cherches la vie éternelle, tu as la réponse. Pas de vie éternelle en dehors de Jésus. D'accord ? Donc tu peux aller chercher dans toutes les divinités, dans toutes les religions, quelle que soit leur ancienneté, personne et aucune religion ne procure le salut et ne donne la vie éternelle en dehors de la personne de Jésus. C'est clair ? Bon. Extraordinaire. On comprend, si vous voulez, que nous, chrétiens, on annonce la bonne nouvelle. Par amour, parce que le zèle de ta maison me dévore, et puis par amour pour nos frères. On dit, tu sais, il n'y en a qu'un qui peut te sauver, il n'y en a qu'un qui peut te faire revenir à la vie et te faire vivre de la vie éternelle ici-bas, c'est Jésus, il n'y en a pas d'autre. Que devons-nous faire alors ? Demandez les 3000 personnes à Jérusalem devant la prédication de Pierre. Ben, convertissez-vous, croyez en Jésus-Christ, faites-vous baptiser. Pourquoi ? Parce que justement, le baptême, c'est très important. Le baptême, c'est le moyen ordinaire que l'Église connaît pour faire accéder les gens à la vie éternelle, à la vie. Et oui, c'est le baptême, le sacrement du baptême. Nous sommes faits une création nouvelle, nous devenons fils adoptifs de Dieu. Nous sommes purifiés de nos péchés, péchés originels, péchés personnels, ainsi que des peines. Nous sommes vraiment une créature nouvelle par le baptême. On participe à la nature divine, on devient membre du Christ, co-héritier avec le Christ, temple de l'Esprit Saint. Et à travers ce sacrement de la naissance d'en haut, on devient frères les uns des autres. La véritable fraternité. Hein ? On est tous frères, tu parles. On est vraiment frères en Jésus-Christ. C'est là où notre fraternité la plus profonde. Impossible d'être vraiment frère si on n'est pas fils et filles bien-aimés du Père. Qui est ce Père ? C'est quelqu'un, un gros barbu là-haut ? Non. C'est le Père révélé. En Jésus. Jésus, plénitude de la révélation, accomplissement de toutes les promesses. Qui me voit, voit le Père. Et donc, le Père et le Fils envoient en nous leur esprit qui vient crier « Abba, Père !» Abba, Père ! C'est qui ce Père ? C'est le Père de Jésus. Jésus est le Fils unique. Alors oui, on est tous frères parce qu'on partage l'humanité, c'est la même humanité, on est d'accord. Mais surtout, la splendeur, c'est qu'on est devenus frères et sœurs en Jésus. Et ce n'est pas une parole pieuse, ça a coûté la vie et la passion de Jésus quand même. Pour qu'on soit réconcilié avec le Père et qu'on se découvre à nouveau réunis, récapitulés dans le Christ, rassemblés dans l'unité, parce que nous étions des enfants de Dieu dispersés. Alors oui, Dieu est Père de toute éternité. Sauf que justement, par Jésus en Jésus, dans l'Esprit Saint, nous pouvons connaître le Père. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, Père. C'est qu'ils aient cette relation vivante avec toi, Père. Comme Jésus. Père, en Jésus, Père, par Jésus, Père. Alors voilà que par le baptême, le sacrement du baptême, le salut advient dans l'âme et dans la personne, qu'elle soit tout petit bébé, adolescent, enfant, adulte ou vieillard, hein? C'est possible aussi. Et que cette vie éternelle qui est déposée en nous par le sacrement du baptême, elle demande à grandir, bien sûr. C'est comme une graine dans la terre. Vous pouvez compter sur la lumière, l'eau, etc. Ok. Mais si vous ne faites rien, il faut quand même aider un peu. C'est la participation à la vie de la grâce. La vie éternelle demande qu'on y participe volontairement. La vie éternelle réclame qu'on nourrisse cette vie de Dieu en nous, en particulier par l'Eucharistie, bien sûr. Travailler non pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure en vie éternelle. Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Et donc l'Eucharistie, c'est la nourriture par excellence dans ce festin des noces de l'agneau par lequel la vie de Dieu grandit en nous. Et puis bien sûr la confession, indispensable. Si on veut que cette vie éternelle, qui, attention, est ici-bas, est en train de pousser, elle s'achève dans la gloire, attention. Je suis en train de parler du ciel, oui. Je suis en train de parler de la Toussaint, oui. Mais impossible de parler des saints, si vous voulez, on ne regarde pas les choses par cet angle. Cette vie éternelle donc se nourrit par la pratique active, fréquente, amoureuse, des sacrements. Confession mensuelle, hein? On est d'accord, hein? Bon, ça dépend de ce que vous voulez, hein? Si vous voulez une petite place dans un coin au ciel, confessez-vous deux fois par an, comme le préconise l'Église. Mais si vous voulez un peu plus de peps, un peu plus de bonheur, un peu plus de vie de Dieu en vous, ben allez-y beaucoup plus fréquemment, mais oui, bien sûr, une fois par mois. Et puis, ben, si vous ne vous êtes pas confessé depuis longtemps, ne traînez pas, vraiment, vraiment. Alors, bien sûr, cette vie de Dieu en nous se nourrit par la prière. Chers enfants, revenez à la prière. Chers enfants, revenez à la prière. Mais maman, ça fait 40 ans que tu nous le dis. Chers enfants, revenez à la prière. Tu radotes un peu, maman? Non, non. Chers enfants, revenez à la prière. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres vivants et que la vie, si vous voulez, c'est jour après jour. Alors, jour après jour, prions. Pratiquons la prière avec toutes ses formes. L'adoration, la méditation, la contemplation, la louange, l'intercession, etc., etc., etc. La prière personnelle. Indispensable, je dirais même indispensable pour bien vivre les sacrements. L'exercice de la charité fraternelle aussi est indispensable à la croissance de la vie de Dieu en nous. Nous savons, nous, que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un homicide. Or, vous savez qu'aucun homicide n'a la vie éternelle demeurant en lui. La pratique de la charité fraternelle, c'est la pratique de l'agapé, c'est-à-dire l'amour même de Dieu, l'amour même qu'est Dieu entre nous. Ce n'est pas un amour simplement humain, naturel. La charité caritas, c'est l'agapé, la vie, l'amour de Dieu qui se répand dans notre cœur pour être distribué, pour circuler, pour être donné. Et c'est lorsqu'on donne qu'on reçoit. Et c'est en donnant l'amour de Dieu qu'on grandit. C'est comme ça dans le royaume. C'est quand on donne qu'on s'enrichit. Et c'est cet amour, justement, sur lequel nous serons jugés au soir de notre vie. Cette vie de Dieu, cette vie éternelle qui est vécue ici-bas en nous, bien sûr, elle ne s'arrête pas à notre mort, mais elle s'achève dans la gloire. Il y a un passage à franchir qu'on appelle la mort, qu'on appelle le dernier moment, le dernier instant à vivre ici-bas pour nous sur cette terre. Et au cours de ce passage, il y a ce que l'Église appelle un jugement particulier ou personnel. C'est la même chose. Le catéchisme, au paragraphe 1021 et suivant, il nous dit « La mort met fin à la vie de l'homme comme temps, écoutez bien, ouvert à l'accueil ou au rejet de la grâce divine manifestée dans le Christ. » Temps ouvert, c'est ça que nous avons ici-bas, nous avons un temps ouvert à l'accueil ou au rejet de la grâce divine manifestée dans le Christ. Le Nouveau Testament parle du jugement principalement dans la perspective de la rencontre finale avec le Christ dans son second avènement, mais il affirme aussi, à plusieurs reprises, la rétribution immédiate après la mort de chacun en fonction de ses œuvres et de sa foi. La parabole du pauvre Lazare et la parole du Christ en croix au bon larron, qui était loin d'être bon d'ailleurs, ainsi que d'autres textes du Nouveau Testament, parlent d'une destinée ultime de l'âme, qui peut être différente pour les unes et pour les autres. C'est donc, frères et sœurs, the moment à ne pas rater. Il ne faut pas rater sa mort. Comme il ne faut pas rater sa vie. Rater sa vie, c'est quoi ? Ben, c'est passer à côté de Dieu, tout simplement. On peut être un pécheur, si vous voulez, mais un pécheur qui se convertit, ben lui, il ne rate pas sa vie. Mais quelqu'un qui refuse volontairement, obstinément, l'amour et la miséricorde de Dieu, ben, il rate sa vie. Chaque homme reçoit dans son âme immortelle sa rétribution éternelle dès sa mort, en un jugement particulier qui réfère sa vie au Christ, soit à travers une purification, ce sera le purgatoire dont nous parlerons ultérieurement, soit pour entrer immédiatement dans la béatitude du ciel, ce sera mon cas, hein ? Ah ben oui, parce que je serai porté par la prière de tous les auditeurs et des auditrices de Radio Maria, donc... Quand le Seigneur m'accueillera, mais c'est qui ? T'es qui toi ? Je dis, ben, je suis celui qui est porté par tous les auditeurs et auditrices de Radio Maria France. Viens, ben voilà, ben entre dans la joie de ton maître. Hein ? Ce sera mon pass. Hein ? Bon. Blague mise à part. Soit donc pour entrer dans la béatitude du ciel, soit pour se damner immédiatement. Immédiatement, écoutez bien, immédiatement pour toujours. Voilà donc qu'il y a deux destinations finales. Une immédiate, possible, c'est l'enfer. L'autre immédiate, possible, c'est le ciel. Ou pas immédiate, en passant par une étape miséricordieuse, pleine de justice aussi, pleine de, on en parlera, qu'on appelle le purgatoire. Le purgatoire s'achève, se termine. Ce n'est pas pour toujours le purgatoire, se termine au ciel, hein, quand la purification est terminée. Donc les âmes du purgatoire n'iront pas en enfer, on est d'accord. Ne vont en enfer que les personnes qui veulent y aller. Frères et sœurs, est-ce que vous avez peur de l'enfer? Je vais vous dire, on ne va pas au ciel par peur de l'enfer. Non. On va au ciel parce qu'on veut y aller. Qu'on est attiré, qu'on se laisse attirer, qu'on désire le ciel. Et je terminerai ma catéchèse d'aujourd'hui là-dessus. Nous devons désirer le ciel, désirer la béatitude, désirer le bonheur, désirer Dieu, désirer l'éternité bienheureuse. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous sommes faits pour ça. Quand le Seigneur nous crée, c'est pour ça. Mais quand il nous crée avec un devenir, avec une liberté, avec un choix libre et une possibilité de choisir librement. C'est ça qui est merveilleux. Nous accédons aux choses divines parce que elles sont toutes prêtes, elles sont voulues par Dieu, mais nous devons les choisir librement. Rappelez-vous cette parabole de Jésus qui nous explique qu'il y avait un festin et puis il y a une salle de noces et puis il y a un gars là qui est là et puis il a pas la tunique, lui. Comment ça se fait qu'il soit là? Non, il faut revêtir la tunique. C'est un choix personnel, un consentement libre et éclairé, comme on dit en ce moment. Il nous faut désirer le ciel, parce que c'est ce que Dieu veut pour nous. Et quand Dieu veut nous offrir que des belles choses d'ailleurs, il nous fait désirer pour que, au moment opportun, il nous dise: c'est bon, t'es prêt, tu veux? Et on dit: mais c'est fou, c'est exactement ce que je veux. Comment tu savais? Vous savez, quand on fait un cadeau à quelqu'un, on sait ce qu'il aime et alors on lui dit: bah tiens, je vais lui offrir ça, ça va lui faire plaisir. Comment tu savais? Eh, je te connais, hein, et je t'aime. Alors, frères et sœurs, Amen, Alléluia, n'oublions pas ce pourquoi nous sommes faits, notre finalité profonde, nous sommes faits pour le ciel. Amen, Alléluia. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.